Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex, comment ça va?
Salut Patrick, salut tout le monde. Bah écoute, ouais, ça va plutôt bien, content de revenir. Petite annonce sur tous les retours de la WWDC. On va parler de Nuxt qui arrive en fin de vie. On va parler des choses insolites que des mecs font avec
Nuxt 2.
Nuxt 2 qui arrive. Ouais. Attention. Qui arrive en fin de vie, évidemment. De toute la partie SQL Lite qui est en train de prendre des ampleurs plutôt intéressantes avec des mecs qui font des trucs totalement insolites et des petits navigateurs qui sont augmentés avec de l'IA. On va voir si c'est intéressant. On a testé. On va en parler. Du CSS qui évolue, justement, vu que la WWDC est sortie, donc c'est la conférence des développeurs de chez Apple. On avait déjà fait un épisode sur la Google I.O. parce que, mine de rien, Google, c'est quand même Chrome. Et donc, Chrome, c'est un moteur qui est quasiment partout aujourd'hui sur le web. Néanmoins, il y a le petit canard boiteux qui est en train de rattraper son retard avec Safari. Et donc, on va en parler de tout ça dans cet épisode de news du mois de juin.
Ouais, carrément. Oh, petit canard boiteux.
Ouais, je suis un petit peu méchant.
Il boite beaucoup, il court derrière. Mais...
ouais. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on en parle, mais ouais. Safari, c'est un peu le nouvel Internet Explorer, quoi. C'est le
carrément.
Nouveau. Et pourtant, il pourrait faire un truc vachement plus poussé et tout, mais je crois que Chrome est trop loin devant, quoi. Trop loin devant.
Je trouve, enfin, on va juste vite fait, on en parlera après, mais moi je trouve déjà un des problèmes de Safari, c'est le fait qu'il soit mis à jour uniquement avec les nouvelles versions d'iOS ou de macOS, et ça c'est problématique parce que contrairement à Chrome qui est mis à jour très régulièrement en fait,
Safari tous les mois ils ont une release quoi.
Ouais. Voilà, et Safari en fait là t'attends à chaque fois un nouvel OS machin, donc c'est vraiment handicapant en fait pour faire des évolutions de Safari.
Bon. Clairement.
On en parlera après de toute façon.
Allez. Allez, on attaque tout de suite avec un éditeur qui est en fait une sorte de fork ou une surcouche en fait de VS Code qui s'appelle Cursor et qui vient en fait mettre une énorme surcouche d'intelligence. Donc en fait, c'est un copilote intégré directement. L'avantage, c'est que tu peux utiliser différents modèles. Donc, t'es pas prisonnier du modèle de copilote. Tu peux mettre tes propres clés API, ce qui fait que tu payes toi-même. Ou sinon, ils ont une version directement où tu viens payer, je crois que c'est 20 balles par mois, un truc comme ça.
Je sais pas trop, ouais, mais donc ouais, en fait Cursor c'est un truc qui c'était sorti il y a plusieurs mois déjà, donc c'est vrai que, mais toi en fait tu l'as testé,
ouais.
C'est ça le truc. Voilà,
ouais, alors moi je l'ai testé. Le gros avantage que je vois, c'est que en fait dans Copilot souvent quand tu vas lui poser une question en commentaire ou quelque chose comme ça, il va prendre les onglets qui sont ouverts, mais il va pas toujours prendre la code base dans son intégralité. Là en fait, quand tu ouvres un projet dans Cursor, il va vraiment scanner toute ta code base. Et en fait, il va la prendre comme contexte. Donc, tu as beaucoup plus de contexte. Et sur les suggestions, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Et moi, j'ai quand même vu une différence.
Ouais.
Après, là où moi, ça me dérange un peu, c'est que c'est toujours très obscur sur la code base, elle est envoyée où? Est-ce qu'elle reste en local? Est-ce qu'elle est envoyée chez eux? Est-ce qu'elle est envoyée au modèle? Vu que j'ai mis mes clés API, est-ce que c'est envoyé à ChatGPT 4 là, ou GPT 4? Est-ce que je viens entraîner le modèle avec mon code? Tout ça, c'est assez obscur. Alors, je t'avoue aussi que je me suis pas infligé la lecture des conditions générales de vente.
Ouais.
Donc, à un moment donné, tu dis, OK, ben là, stop, quoi. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont plutôt sympas où l'expérience de chat est plutôt bien réussie, contrairement à Copilot où tu vas aller... en fait, tu es dans un onglet à part. Là, tu peux vraiment ouvrir une boîte de dialogue dans le contexte et tu poses ta question et tu chattes avec ta codebase, quoi. Tu as tout un système de documentation où il va aller automatiquement récupérer toute la doc, tout. Non, c'est pas mal.
Ouais.
Après, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le manque de transparence sur où va le code.
C'est marrant que tu dis ça, parce qu'en ce moment, justement, à chaque fois que je parle avec des devs, tout ça, d'IA, en fait, c'est une des premières choses qui revient à chaque fois. La privacy, mon code, etc. Et c'est vrai que c'est un... Tu vois, on a passé un petit peu la partie... époustouflante là de l'IA tout ça, et là on commence à se poser les vraies questions, et c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps en fait, que bah ouais, mes data elles vont où, etc. Ça y est, là on a atteint ce niveau où on se pose vraiment les questions.
Donc je pense qu'on a on a passé le côté l'effet waouh, quoi, tu vois,
ouais,
l'effet waouh, c'est bon, c'est fait, maintenant je veux plus de pertinence, je veux de la privacy, mais comment je peux contrôler ça? Après, sur le côté refacto, ouais, il y a des trucs où il est complètement pertinent. Après, ça reste un LLM, quoi. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas lui faire une confiance aveugle en mode copier-coller, quoi. Non, tu relis, et nombre de fois où tu te fais quand même surprendre en disant « Ah ouais, mais c'est exactement ce que je voulais faire. » Et donc, tu as un gain de temps qui est monstrueux, quoi. Donc, ouais. Non,
ça, c'est clair. C'est clair qu'on est de toute façon...
Tu ne peux pas le nier, quoi.
On est plus productif, ça, c'est évident. Après, j'ai testé. Moi, ce matin, je m'amusais avec, parce que je me suis mis sur un petit projet Laravel et je me suis amusé un petit peu avec. Alors, ce qui est cool, déjà, c'est que c'est un VS Code. Donc, on peut importer direct tous les settings, tout ça, toutes les plugins, tout ça de son VS Code. Donc, on se retrouve directement dans son VS Code comme on avait déjà avant, assez rapidement. Après, ouais, il y a ce côté. Mais tu disais, tu peux brancher sur n'importe quel IA. C'est-à-dire que là, le chat, tout ça qui est intégré, je le branche sur... tu sais, on avait vu Tabi la dernière fois, tout ça.
Exactement.
Je le branche dessus,
en fait,
et c'est censé marcher, en fait.
Tu vas pouvoir, en fait, mettre tes propres clés API. Et juste pour revenir sur l'intégration, moi, là où j'étais bluffé, c'est sur, justement, la migration, en fait, au moment où tu installes pour la première fois, où tu ouvres pour la première fois ton curseur, en fait, il récupère toutes tes settings, tes paramètres, tes thèmes, tout. Et en fait, tu es automatiquement, en fait, dans ton... En fait, si tu viens de VS Code, tu as une migration qui est inodore, incolore. Tu retrouves les mêmes keymaps, tous tes settings, toutes tes extensions. C'est vraiment à l'identique. Ce qui fait que tu n'as aucune barrière au switch. Et en fait, mais ça, c'est super malin, parce que à chaque fois que tu passes d'un éditeur à l'autre, ah ouais, c'est pas les mêmes shortcuts, tes settings, il faut les refaire, ou des choses comme ça. Là, ils ont vraiment, c'est hyper, 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 hyper fluide. Et ça m'a vraiment bluffé, quoi. Et sinon, oui, pour revenir sur le côté... où tu mets tes propres keys, en fait, tu vas payer au service, en fait. Donc, la question, c'est est-ce que tu vas passer tes $20 par mois? Ça, franchement, je ne pense pas qu'avant de mettre $20, je pense qu'il faut vraiment que tu y ailles vraiment, vraiment, vraiment fort pour passer, en fait, ton prix à la consommation, quoi. Donc,
fais voir le tarif par an, là, pour voir la différence. Il marque $48 de moins. Ça fait $192.
Ça fait 16 dollars par mois si tu prends... si tu prends à la...
Ouais, je sais pas. Ouais, c'est... Après, ça, moi, c'est pas des prix qui me choquent, en général. Bah, après,
non, mais le copilote, aujourd'hui, il est à combien?
C'est 20 dollars, je crois. Non, attends, c'est quoi? Non, c'est non, c'est pas. Non, c'est 10 balles. C'est 10 dollars le copilote par mois. Et après, ChatGPT. Enfin, là, parce qu'ils utilisent GPT-4, donc GPT-4, c'est 20 dollars, je crois. Si tu rajoutes. Ouais, là, en fait, t'as copilote plus GPT-4.
Ouais.
T'as deux choses. Donc, finalement.
Ouais. voilà, c'est. Je pense que. on testait peut-être à
ouais, faut tester.
Avec, avec vos propres clés API, ça vous coûtera toujours moins cher. Et puis, comme ça, vous pouvez voir ce que ça dit et si vous êtes plutôt à l'aise avec ça, quoi.
Yes. Faites les retours dans les commentaires. Ça nous intéresse.
Carrément, carrément. Une autre possibilité, c'est d'utiliser Codeium. Par contre, ça, moi, j'ai pas testé. C'est le même concept en fait, ou c'est une
surcouche ? Non, du tout. Non, c'est pas pareil du tout. J'ai pas testé encore, mais je pense que je vais le tester assez rapidement. C'est un copilote. C'est copilote.
Ok. Fake. Donc, c'est une extension que tu installes dans ton VS Code.
Voilà, c'est un okay. C'est une IA pour coder, sauf que la grosse différence, c'est le pricing. C'est que c'est gratuit.
Ok.
Voilà. Par contre, j'ai marqué dans les notes. C'est gratuit, mais en fait, tu entraînes l'IA hein, automatiquement. Donc, tu travailles pour eux. Ouais. C'est comme ça qu'on entraîne les IA. Hein. Pour rappeler, en fait, on en a parlé il y a un ou deux épisodes. Les IA, en fait, pour les entraîner, en fait, elles te font une proposition et tu dis oui ou non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et en fait, effectivement, quand on code, qu'elles nous proposent des trucs, qu'on refuse la proposition, bah, en quelque sorte, on l'entraîne. Donc, voilà, ça leur permet d'entraîner l'IA. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est gratuit pour l'instant.
Ce qui est normal. Enfin, je veux dire, les gars, il faut bien qu'ils.
Non.
Mais ouais. Après. T'envoies tout, comment... Ouais, c'est toujours le problème. Privacy, quoi. Yep. Ouais. À tester,
ouais,
en tout cas.
À tester, elle a l'air intéressante, quand même. Ouais, ça permet aussi de sortir un petit peu de Microsoft, etc. Quoi. C'est aussi des fois pas mal.
Allez, on part sur quelque chose qui n'a rien à voir. On va sans doute parler dans un futur épisode d'un PaaS, d'un Platform as a Service, trouver le bon compromis entre son propre serveur et le PaaS. Là, il existe une toute petite solution qui s'appelle Piku. Piku, ouais, ça fait très Pokémon Piku quand même. Hein.
Ouais, c'est ça.
mais bon, je pense que c'est tout petit. L'idée, en fait, c'est d'installer Piku sur son propre serveur pour pouvoir déployer ses applications directement, c'est ça ?
Ouais, ils se disent, ce qu'ils disent, c'est le plus petit PaaS que tu peux trouver. Et en fait, quand tu lis la motivation, en fait, c'est tout simplement. Alors, il y avait Doku.
Doku,
qui existait, qui était une version open source d'Heroku, en fait, donc voilà, qui détecte automatiquement que tu as fait un git push, et puis il va déployer automatiquement avec c'est un proc file, je crois, sur Heroku, je sais plus.
Sur Heroku, c'est des build pack, machin, tout, et en fait, Doku, je crois, il prend ton app et il la dockerise et il la déploie sur ton serveur.
Donc, c'est un peu le même principe, sauf que ce qu'il raconte, c'est que Doku ne fonctionnait pas sur les ARM. Donc, il a voulu faire une version ARM. Donc, ce Piku, en fait, il fonctionne sur ARM et sur Intel. Et après, c'est le même principe que Doku, que Heroku, en fait. Ça déploie automatiquement. Donc, c'est le même fonctionnement. Donc, voilà.
Mmh, OK.
Et a priori, c'est stable. Donc, c'est utilisable.
Et pour le coup, c'est tout petit. Si ça fonctionne sur un ARM, je pense que le but, c'était de réduire la taille des serveurs, quoi. D'utiliser la puissance, le côté petit serveur. Okay.
Ouais, c'est un petit truc qui ne prend pas de place. Ça marche sur Python. Voilà.
Nice.
Sympa. Ouais, pas mal.
Et il y a un site de doc qui explique
comment l'installer. Ça,
D'accord. Facile à installer ?
Ah, j'ai pas testé.
Ok.
Encore.
Et pour le coup, ok. Piku, ça marche. On bascule sur Astro qui vient encore plus étoffer son système et tout son écosystème de solutions. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'astrosphère, on va dire, Astro, c'est un générateur de sites statiques sur lequel on va pouvoir greffer n'importe quel framework JavaScript ou librairie JavaScript si on en a besoin, mais en fait on va trouver la modularité des librairies avec tous les composants, mais là à la fin on va sortir que du HTML pur et brut, et donc ce qui nous fait des sites plutôt rapides et légers nativement, mais tout en profitant de l'expérience développeur des composants, et on va venir composantifier, on pourrait dire en quelque sorte, tout le HTML. Donc il y a tout un écosystème qui s'est développé là-dessus avec des sortes d'extensions pour gérer les langues, gérer le Markdown, le JSON et tout ça. Et là, en fait, ils nous reviennent avec un Astro Content Layer. Mm. Et donc, qu'est-ce que c'est ?
En fait, là, ils ont fait des... Là, la semaine dernière, ils ont fait des conférences sur le futur d'Astro, en fait. Donc, ils ont présenté, il y a eu plusieurs... c'est dispo sur YouTube, il y a plusieurs vidéos. Et ça, c'est la partie vraiment intéressante d'Astro, en fait. Alors, la plupart des gens qui... Il y a beaucoup de gens, en fait, qui étaient sur Gatsby et qui, par la force des choses... RIP,
ben oui, Gatsby est mort. voilà.
Enfin, officiellement, non, mais il est sous respirateur. En tout cas, c'est Netlify qui a la main sur le bouton, en fait, en gros. Et donc, il y a des gens qui passent sur Astro, forcément, parce que c'est la suite logique par rapport à Gatsby, générateur de sites statiques, performants, etc., machin. Mais à chaque fois qu'ils arrivent sur Astro, en fait, ils disent « C'est pas mal, Astro, et tout, mais il manque un truc, tu vois, qu'on avait, justement, sur Gatsby. » C'était ce... Et d'ailleurs, c'est pour ça que Netlify l'avait racheté. C'est ce système de
comment ça s'appelle ? De Data Hub. C'était pas un
truc
comme
en fait, ça via un système, ça allait chercher des data, en fait, soit sur une API, soit sur du Markdown, etc. Et c'est vrai que c'était assez puissant sur Gatsby comme système. Et c'est quelque chose qui manque vraiment sur Astro. Et même s'il y a les collections, tout ça, ou qui vont gérer le Markdown directement, tout ça, mais ça manque de pouvoir se brancher à un CMS, n'importe lequel, un SaaS ou n'importe quoi. Et justement, ils ont annoncé Astro Content Layer, qui est pas... Alors, ils n'ont pas détaillé encore comment ça va fonctionner, etc. Mais c'est dans la même veine que Gatsby, en fait. Ça va pouvoir se connecter soit à des Markdown, soit à des data en remote, donc tout ce qui est API, CMS, tout ça. Et ça va utiliser la puissance de SQLite, parce qu'en ce moment, ils intègrent beaucoup SQLite sur Astro. Donc, ça semble vraiment pas mal. C'est un peu le principe de Gatsby. Tu définis, tu lui donnes un nom, etc. Et après, j'imagine et j'espère qu'on pourra faire des requêtes via ce système de content layer, comme on l'avait sur Gatsby. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner.
Ouais, ouais.
Et c'est le truc qui manque, tu vois, c'est la pièce manquante.
Ah ouais, c'est la pièce manquante parce que, le site statique, c'est toujours bien, mais ton client, il va dire, ouais, mais moi, je veux contrôler mes données, le GitHub, GitHub Base machin, je veux pas. Ton site statique, j'arrive à le vendre, tu me l'as vendu, nickel, mais en tout cas, ils comprennent le bénéfice d'utiliser un site statique pour la sécurité, la rapidité, tout ça, ok, pas de problème. Par contre, eux, ils veulent toujours garder le contrôle des datas, et c'est vrai que si là, tu peux brancher ce qu'avait réussi à faire Gatsby, le Data Hub, tu branches n'importe quelle source de données, là, ça prend une autre dimension. Vraiment, ça prend vraiment, vraiment une autre dimension. Et c'est là où ça peut être très, 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 très fort. Très intéressant.
Ouais, parce que sur Gatsby, en plus, tu pouvais être... En fait, après, chaque provider des CMS, tout ça, développait un peu son truc et tu l'installais, un peu comme les modules, tu vois, sur Nuxt, tout ça. Tu l'installais, tu mettais ta clé API et bam, en deux secondes, tu avais accès à ton CMS en faisant des requêtes et tout ça. Et donc, tu pouvais te brancher à n'importe quel truc ou même à WordPress, tu avais même la version WordPress, tout ça. Tu avais accès aux data très rapidement, en fait, sans te prendre la tête. Donc... ils disent travailler dessus en automne, normalement. Enfin, ça sera dispo en automne, normalement. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Ça serait cool. Après, sur la doc, ils parlent déjà des CMS guides et tout ça. Ça a l'air vraiment bien. Par contre, est-ce qu'ils ont évoqué une notion de prix ? Est-ce que ce data layer, il sera payant ? Est-ce que ça sera open source et tu payeras en fait ton CMS à côté ou comment ça va se passer ?
Non, ça sera vraiment... C'est quelque chose qui est dans ton projet, qui va se brancher en fait. Voilà, c'est un package qui va se brancher à un endroit et qui va traiter la data en fonction de sur quoi il est branché, quel provider, tout ça. Donc il y a pas, pour l'instant, il y a pas de système de SaaS, tout ça. Comme oui, comme tu disais, comme il avait fait Gatsby dans un second temps. Pour l'instant, ils en sont pas là.
Waouh.
Là, wow. C'est indépendant, voilà, et c'est toujours open source, tout ça. Wow. Tu vois ce qui est cool avec. Alors, Gatsby, c'était top, mais tu sentais que les fondateurs avaient fait Gatsby pour le revendre un jour et faire de l'argent. Voilà, en gros. Astro, c'est totalement la même. C'est pas du... Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça, hein. Peut-être que je me trompe, mais Astro, je sens pas du tout la même motivation, tu vois. On est sur
après,
des gens qui contribuent, qui veulent faire évoluer les choses.
Il y a une grosse partie de la communauté sur ouais. Gatsby, pour le coup. Donc, sur Astro, il y a une grosse communauté. Après, derrière, il y a toujours une boîte, donc on va dire, le business model, il reste toujours... comment ils font de l'argent à un moment donné, ces gens-là? Est-ce que c'est full open source?
Ouais, normalement, oui.
Il y a peut-être des mecs qui sont derrière aussi. Comment ils font pour gagner de l'argent, quoi? C'est toujours l'équilibre précaire sur de l'open source. Ouais. Parce que parfois, les gens ne sont pas prêts à sortir la carte bleue, tout simplement. Quoi.
Alors, les gens et souvent les sociétés. C'est d'ailleurs ce qui revient souvent, c'est que les sociétés... c'est un peu la problématique d'open source ces derniers temps, c'est que beaucoup de sociétés, d'énormes sociétés type Amazon, Facebook ou n'importe quoi, qui utilisent des systèmes open source et ne contribuent jamais en fait, à ces trucs, alors qu'ils font énormément d'argent dessus. Donc, c'est toujours la problématique et la polémique là-dessus. Mais bon.
Ouais. Après, à l'inverse aussi, les grosses boîtes, parfois, dédient des mecs sur des projets aussi, open source. Tu vois.
C'est vrai.
Donc, c'est pas aussi, c'est pas aussi binaire. Ouais,
on va faire un épisode spécial open source.
Ouais, exactement. Après, c'est pas toujours aussi les gentils, les méchants, quoi. Tu vois, c'est pas
aussi c'est vrai. Ouais, ça dépend. Il y en a, ils sont méchants quand même.
Allez, ça marche. Allez, on déroule. La version de iOS a été présentée à la WWDC. Donc, c'est iOS 18. Alors, pour nous qui sommes un peu du web, ça va peut-être changer des choses. Néanmoins, il y a cette mais je crois que ça a été un petit peu forcé par l'Europe, hein, il me semble, hein, que Google Play va plus ou moins va s'ouvrir, en fait, à d'autres navigateurs que Safari. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Apple Pay, c'est le bouton où en deux clics, tu as enregistré ta carte bleue et tu payes avec ton téléphone. Et en deux clics, tu as payé. Donc, tu n'as plus besoin de mettre tes codes de carte bleue et tout ça. Et pour le coup, pour avoir intégré ce système-là dans Stripe, ma cliente a vraiment vu la différence le avant et le après, quoi.
En conversion, bien sûr,
parce que c'est un frein et une barrière indéniable, quoi. Parce que il faut taper les codes, ouais, c'est chiant, tout. Ok, donc tu as des systèmes de scan maintenant que tu peux scanner ta carte, ça va plus vite. Mais la facilité de paiement en clic-clic, c'est payé. Elle est énorme, quoi. Et donc là, on est en train de l'ouvrir à d'autres navigateurs sur notre sur la partie desktop. Par contre, je vois un espèce de avec un rond, tout ça. C'est quoi ce truc?
Ben en fait, ouais, comme tu dis, alors souvent ça revient sur Stripe parce que Stripe avait ce système pour l'intégrer facilement Apple Pay et tout ça.
Ouais.
Donc c'était pas mal. Et c'est apparemment moi j'utilise peu Apple Pay sur mon ordi. Plutôt sur l'iPhone. Et c'est vrai que c'était apparemment déjà disponible dans Chrome, tout ça, quand tu as un Mac, c'était déjà dispo. Mais là, il s'ouvre au PC. Et donc, en fait, tu te dis, ouais, super, on va pouvoir payer avec Apple Pay sur PC. Bah, en fait, pas vraiment, parce que en fait, c'est juste ce truc-là qui s'affiche. Tu as une sorte de QR code qui s'affiche quand tu veux payer avec Apple Pay sur un PC, que tu vas scanner avec ton iPhone, et après, tu payes avec ton iPhone. Donc, en fait, oui, ça fonctionne sur les autres navigateurs, mais en fait, pas vraiment, en fait, parce qu'il te faut toujours l'iPhone, tout ça. Donc, voilà.
Ouais, après, ouais, ok.
C'est l'écosystème Apple, donc tu es forcément obligé d'avoir un device Apple. C'est logique, mais...
Ce qui se tient, après, c'est pas non plus déconnant,
c'est pas déconnant.
De faire ça pour, en fait... déporter ton paiement en termes de sécurité, tu es dans ton device à toi. T'imagines par exemple que tu es sur un ordinateur qui n'est pas le tien, tu vois, ou tu es dans un coffee shop ou je sais pas quoi, sur un Wi-Fi non sécurisé. Là, en fait, tu fais ta transaction sur un appareil que tu contrôles. Tu vois, en termes de sécurité, c'est pas déconnant,
c'est
quoi. Tu vois, tu viens déporter et tu ouvres en fait à d'autres navigateurs. Moi, je trouve que le contournement qu'ils ont pris est pertinent et l'expérience d'achat. Ok, il faut sortir ton téléphone, mais en termes de sécurité, c'est bien.
Ça fait une double authentification en quelque sorte.
Ouais.
Tu valides avec ton téléphone, il y a le Face ID, tout ça. Donc, oui, en fait, l'intégration est très bien, très sécurisée. C'est à la Apple, quoi. Puis, évidemment, ça sera fluide parce que. Mais de toute façon, c'est logique. Tu ne vas pas payer sur un PC si tu n'as pas un iPhone ou un Mac, n'importe quoi, en fait. Enfin, tu ne pourras pas, de toute façon.
Ce qui t'évite de mettre tes credentials Apple, tout. Non, c'est plutôt bien.
Ça ne marchera pas avec ton Apple Watch, par contre. Tu peux payer avec l'Apple Watch.
Ouais,
tu peux pas scanner avec ton Apple Watch.
Non, tu ne peux pas scanner. Tu peux pas scanner. Mais intéressant. Pas intéressant.
Ouais.
Intéressant. Donc dans le même acabit, en fait, vu que la WWDC 2024, donc la conférence Apple Developer, ils annoncent une nouvelle série sur iOS 18, ce qui veut dire qu'il y a aussi la version desktop qui vient, et donc le moteur de Safari se met à jour avec la problématique qu'on évoquait en début d'épisode, où justement, malheureusement, les releases en fait de Safari sont conditionnées et sont rythmées avec les versions de macOS qui se mettent à jour malheureusement une fois par an, quoi.
Ouais, c'est super dommage. Donc ça veut dire que c'est souvent assez long. Bon, voilà, ça sort tout d'un coup. Ça fait que là, sur ce document là qui résume un peu toutes les nouveautés et les dépréciations, y a énormément de choses, en fait, énormément de choses. Mais on va juste résumer vite fait les choses importantes. En fait, au niveau du CSS, il y a les View Transition en Level 1 qui sont intégrés. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout ce qui est CSS View Transition. On va pouvoir l'utiliser sur Safari, nickel. Il y a un truc intéressant, si tu descends un petit peu, le style query, ça c'est marrant, voilà, je connaissais pas.
Alors, c'est quoi le style query?
En fait, c'est un container query, c'est une query container, où tu vas mettre style en fonction, si le background il est black, tu vas mettre le texte en blanc, en fait. En fait, tu vas faire une query avec une condition en fonction du style qui est appliqué sur ce container. Enfin, moi, j'avais jamais vu ce truc, alors...
C'est au lieu de définir ok, pourquoi pas,
c'est pas mal, ça veut dire que c'est un truc tu vois, en fonction, ça peut être pas mal, en fonction du texte, tout ça, pour faire les contrastes et tout, intéressant. Okay. On a un truc sur les couleurs, tout ça, on a toujours du mal à comprendre. Il y a un truc super intéressant, le animating display. Alors c'est quelque chose qui normalement existe déjà sur Chrome, qui est déjà disponible. C'est le fait de pouvoir, alors tu sais que les transitions, c'est quand tu mets un display none, ça te pète tout, en fait. Ta transition ne fonctionne plus et ton élément disparaît direct. En fait, il n'y a pas de transition, tout ça. Et en fait, avec un @startingStyle, en fait, il y a possibilité de faire fonctionner les transitions avec les display none. Et c'est quelque chose qui est déjà dispo dans Chrome, apparemment. Tu vois, moi, j'avais quasiment jamais entendu parler de ça. Et puis là, ça commence à sortir. On commence à en parler. Et donc, il l'intègre sur Safari 18. Et pareil, de pouvoir faire une transition. Donc, tu as un élément qui, au final, va finir en display none, mais tu as quand même la transition qui se fait jusqu'à ce qu'il soit display none. Donc, tu peux faire disparaître
Parce que ton display none, en fait, ton nœud HTML, il est encore présent, mais il n'est pas affiché, c'est ça? Là, en fait, on pouvait animer sur l'apparition d'un nœud HTML ou la disparition d'un nœud HTML, d'un tag, d'une balise classique, sauf que s'il était présent mais pas affiché, on ne pouvait pas appliquer une animation ou une transition. Mmh. Et grâce à ce starting style query là, on va pouvoir faire ça.
C'est top. Tu peux intégrer le display none dans les keyframes, donc pas mal.
Donc en termes de performance aussi, parce que moins on manipule le HTML, plus on a de la performance. Donc, voilà. Intéressant. OK.
Encore un truc sur CSS qui évolue encore, c'est cool. On a le... Bon, Vision OS, on s'en fout parce qu'on n'en a pas de toute façon. Je n'ai pas les moyens.
Même si ça va sortir en France, mais ouais, ça sera...
De toute façon, ça y est, apparemment, il arrive là, mais c'est 4 000 $. Donc bon,
c'est hors de prix. C'est hors de prix.
Ouais. Le backdrop filter, truc marrant, c'est qu'il existe depuis super longtemps, mais il était sous un préfixe WebKit. Et ben, ça y est, ils enlèvent enfin le préfixe. Voilà, truc. Bon, on s'en fout un peu, mais voilà, tout le monde le prend en charge. Safari avait toujours le préfixe. Bon, il enlève enfin. Le safe in flexbox, intéressant. Je connaissais pas cette propriété. C'est pour aligner les éléments, en fait. Alors, si tu descends un petit peu, tu verras. En fonction s'il est encore un petit peu. Voilà, quand ça dépasse, si tu fais un align, en fait, c'est un justify content center. Si jamais ça dépasse, bah ça dépasse des deux côtés. Si tu passes en safe center, eh ben ça va dépasser que d'un seul côté. En fait, il va s'aligner, tu vois, les deux éléments sur la gauche et ça dépassera que sur la droite. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc la partie du texte reste lisible et tu devines quand même ce que c'est investigation au lieu de juste vestigation. Tu vois, donc c'est okay. Un truc. Bah voilà, intéressant, que je connaissais pas, ça peut être utile des fois.
Ouais, là c'est des petites, vraiment des toutes petites des tout petits ajustements,
ouais, ouais.
Mais qui, voilà. Qui au final rendent le truc un petit peu plus joli.
Web app format, celui-là c'est la suite. Attention, ouais. Attention, celui-là tu le connais, quand on fait des web apps sur tout ce qui est environnement Mac, si tu as un lien dedans, il s'ouvre où actuellement?
Dans ton navigateur.
Voilà, donc tu sors de l'application et tu te retrouves dans ton navigateur. Donc la plupart du temps, c'est compliqué de revenir dans l'application, etc. Et ben, apparemment, ils ont enfin réussi à résoudre ce problème. Et donc, ça devrait s'ouvrir dans la web app. Voilà.
Donc, nice.
Ça, c'est nice. Cool. Encore une évolution sur les web apps dans Mac.
Mais ça, c'est bien.
C'est un problème. Ça. On est obligé de faire des hacks et tout ça pour éviter que ça ouvre à l'extérieur, ouais. Et tout.
Et donc, le jour où ils font ça sur des PWA, les gars, là je suis trop content. Mais
bah, c'est un pas de plus vers la PWA, donc on s'en rapproche, quoi.
Ouais,
s'en rapproche.
Ouais. Mais ils le font sur le Mac, c'est-à-dire sur le desktop. Parce que ça passe mieux, parce qu'ils arrivent à l'intégrer. Mais sur iOS, c'est plus le même délire. Parce que il y a tout l'écosystème business derrière avec le store et tout ça. Donc c'est plus compliqué. Mais c'est très bien. C'est très bien, c'est top. je ne peux que valider ça, c'est clair.
Et ensuite, bah après, il y a plein de trucs. Voilà, on va pas les. Mais il y a beaucoup de pré-kétides, dont j'ai noté abandon de JPEG 2000. Ils disent on était les seuls à le supporter, donc on abandonne.
Ouais, à un moment donné,
faut arrêter quoi.
Non, je ne dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Il y a le. Ouais. Arrivée de URL en JS, c'est URL parse, là, pour parser des URL, donc qui n'était pas dispo. Voilà, une API JavaScript qui arrive, et puis après, il y a plein de trucs voilà, qui sont supprimés, tout ça. Donc, gros document, grosse mise à jour, donc voilà, intéressant à lire, de voir un peu ce qui évolue, tout ça.
Yes, ça roule. On revient on va dire qu'on va rester sur du CSS.
on parle que de ça.
Ouais, on passe, c'est vrai. Mais pour le coup, là, en fait, dans un contexte d'input, en fait, si on avait mis des règles qui n'étaient pas valides, alors que même l'utilisateur n'avait pas sélectionné l'input, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas pris le focus, on lui affichait déjà une erreur comme quoi c'était invalide parce qu'il ne respectait pas les règles inscrites. Ça, maintenant, c'est fini grâce à la balise ou la pseudo-classe valide et user valide, invalide et user invalide.
Ouais, c'est ça. En fait, quand tu as deux points valides ou deux points invalides, en fait, tu arrivais sur la page, tu avais déjà le truc qui était. Si tu disais qu'il fallait que c'était obligatoire, en fait, il était forcément invalide direct. Donc, tu arrivais sur la page, c'était déjà rouge le truc. Donc, c'était quasiment. En fait, ces choses étaient quasiment inutilisables, en fait, le deux points valides ou deux points invalides. Donc, il y a deux propriétés qui arrivent, enfin, deux pseudo-classes qui arrivent, user-valide et user-invalide, et qui ne se mettent en place que si tu as interagi avec l'input. Donc, c'est-à-dire que tu vas commencer à taper ou quoi, et si c'est pas valide, là ça va s'afficher en rouge. j'ai envie de dire enfin un truc utilisable, parce que ouais. Là dernièrement moi j'ai fait un système de CSS pour des formulaires tout ça, et c'était, je me suis retrouvé à dire bah, en fait je peux pas l'utiliser, c'est ce truc il est inutilisable, en fait tu peux pas utiliser le truc invalide. Donc là voilà, c'est pris en charge normalement sur tous les derniers navigateurs, c'est arrivé sur Safari je crois, sur la 18, et puis bah, voilà, le temps que ça soit implémenté un peu partout, mais ça c'est une super nouvelle.
Et pour le coup on dégage encore du JS.
Ouais, encore. Bientôt on fera plus de JS. C'est fini.
Allez, on vient mixer du CSS avec du design et des couleurs. Pour ceux qui sont plutôt adeptes et on va dire vous faites partie de la même équipe que moi-même et Patrick, où on est plutôt fan de Tailwind, tout simplement on va pouvoir en fait générer des shades, donc des dégradés de couleurs à partir d'une couleur primaire qu'on va lui donner, la référence, et on va automatiquement en fait créer une grid avec tout un dégradé. Ça va la nommer exactement au bon nom, on va dire un nom littéral, et derrière on va pouvoir l'exporter soit en version CSS, SAS, Tailwind, ou avec tous la typologie de couleurs un peu spécifique, là, les HSL, les OKLCH, ou tout simplement aussi pour les designers, ils peuvent exporter directement en SVG pour faire en Figma avec un simple copier-coller. C'est top ce truc.
Ouais, moi j'aime bien. Bah, tu le connaissais, toi, déjà, mais...
Je l'utilise depuis longtemps, mais c'est, évidemment, on mettra le lien dans les descriptions, mais c'est quand même super pratique, et l'avantage, c'est qu'on voit aussi visuellement, en fait, plein de petits composants qui utilisent, en fait, ce dégradé de couleurs, et toutes les couleurs sont issues de la palette qui a été généré, ce qui fait qu'il n'y a pas de surprise, quoi. On voit vraiment si ça correspond à ce qu'on voudrait ou ce qu'on espère ou ce qu'on pensait utiliser. Là, on le voit directement dans le contexte et on peut après faire des ajustements et tout. Donc, c'est super intéressant et ça nous permet de créer une palette très, très rapidement. Et comme ça, on a tout le dégradé direct. Un bon outil à utiliser pour les développeurs qui sont plutôt fans de Tailwind.
Ou pas, parce que du coup, tu peux utiliser les couleurs.
Pas faux. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et pour ceux qui, un peu comme nous, hein, on va l'accorder, qui ne comprennent pas toujours l'utilité des couleurs dans tous les sens.
Le OKLCH, par exemple.
Voilà, si pour vous, ça ne vous parle pas. On vous invite à lire le post en fait, de Léa Verrou. Alors, c'est un post qui est assez fourni. Quand on voit le temps de lecture, c'est significatif. Mais elle a fait un post qui date du 17 mai, il y a un petit mois, où en fait, elle reprend... toute l'explication et pourquoi en fait le contraste, en fait pourquoi utiliser toutes ces nomenclatures de couleurs un peu ésotériques au premier abord, en fait nous permettent de faire des maths et de sortir en fait avec des contrastes de couleurs bien plus intéressants et de valider tout ça. Donc on va dire que c'est un article qui se veut quand même pour les développeurs, mais qui ont une grosse... Aussi pour les designers et développeurs, on pourrait dire, non?
Bah, je pense que alors, l'article... Alors, Léa Verrou, pour rappeler, c'est quelqu'un qui est, assez forte en CSS, qui fait partie vraiment du truc et qui fait des articles très complets, très fournis et très précis. Et je pense que ça, c'est le genre d'article, tu vois, que tu dois lire en fait pour en tant que développeur pour te former en fait pour tenir à jour, te former, etc. Parce que c'est le genre d'article où quand tu auras fini de le lire, tu vas comprendre pourquoi il faut utiliser OKLCH ou des choses comme ça. Et il y a aussi une partie accessibilité, parce qu'elle fait pas mal d'accessibilité aussi. Comment on fait les contrastes et tout ça. Donc je pense que c'est j'ai envie de dire une lecture obligatoire pour là c'est une formation, tu vois, hein, carrément gratuite, disponible. En tant que développeur. Donc, je vous recommande de le lire, de prendre le temps. Après, ça peut se lire en deux, trois fois. Hein. Ce n'est pas obligé de le lire en une fois.
Mais, bon, je me sens obligé maintenant, Patrick. Je me sens
obligé. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je te fais un quiz sur OKLCH.
Sur OKLCH. Bon, alors, comment tu fais ça? C'est quoi? Non, mais OK. Très intéressant. C'est très, très fourni. C'est vraiment très, 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 très fourni. C'est hyper pointu. En parcourant vraiment en biais très rapidement, on voit qu'elle pousse vraiment, vraiment le curseur hyper loin. Je pense qu'on a une très, très bonne idée à l'issue de la lecture de ce post.
Ouais.
Allez, on reste dans l'univers, on revient dans l'univers Nuxt. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait une vidéo sur un workshop où comment on utilisait Nuxt Server. Et c'est un petit workshop qui est uniquement sur... YouTube, exactement. Et on utilisait toute la partie de Nitro.js, qui est en fait le moteur derrière Nuxt Server. Et on fait un petit workshop où on vous explique tout le B.A.B.A. ou comment on pourrait se passer de Express sur nos applicatifs. Et ça, en ayant une DX super sympa. Allez voir la vidéo, c'est directement sur YouTube. Et si on revient dans l'écosystème Nuxt, il y a Prisma qui a sorti son module, qui a sorti son module pour interagir avec les bases de données. Pour ceux qui ne connaissent pas Prisma, c'est un ORM. Donc en fait, c'est l'interface entre ton back-end, ton front et ta base de données. Donc ça va optimiser ton pool de connexion. Au lieu de te faire tes requêtes SQL à la mano, tu vas directement faire un user.find et donne-moi les champs que tu veux. Voilà. Donc ça vient faciliter la communication avec un OR, avec la base de données.
Alors pourquoi? Pourquoi que maintenant ça sort?
Pourquoi que maintenant? En fait, tout simplement, moi, je m'étais penché sur Prisma il y a déjà un bout de temps. Le gros problème qu'il y avait sur Prisma, c'est que ça ne tournait pas sur des workers ou sur des... C'était pas module, en fait. C'était pas ESM, pardon. Et donc, en fait, tu ne pouvais pas l'exécuter sur Nuxt 3 où, en fait, tu pouvais le faire que sur la partie back. OK, c'est super intéressant. Tu as ton ORM côté back. Par contre, côté front, tu ne pouvais pas requêter. Donc, tu avais une limitation. Tu étais obligé de passer à chaque fois par le serveur. Ça serait plutôt bien de faire un use Prisma et tu lui balances ta requête avec ta demande à ta DB pour récupérer les données. Et donc, ça, c'était juste pas possible. Et il y a quelques mois, ils ont sorti en fait une version en fait Prisma Edge, parce que tout l'écosystème en fait Edge s'est beaucoup développé, et donc tu étais obligé d'avoir un serveur. Tu avais une manière de faire, c'était de déployer en serverless, sauf que ton serverless t'amène à un autre problème, c'est comment tu gères ta pool de connexion. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti un service qui s'appelait Pulse, qui faisait de l'agrégation en fait de connexion pour éviter en fait que ton pool de connexion explose à ta base de données. Nuxt, tout ça, poussé par tout l'écosystème Vercel, Netlify, on a déplacé le serverless sur du Edge, donc il y a un runtime un petit peu particulier qui s'exécute au plus proche de l'utilisateur, sauf que il y a des contraintes techniques et il faut respecter les ESM. Si ton module, il est... si ta librairie est ESM compliant, c'est un module, tu peux l'exécuter sur ton Edge. Sauf que Prisma n'était pas fait là-dessus. Et toute leur techno était basée pas là-dessus. Donc, ils ne pouvaient pas exécuter le Prisma sur du Edge. Donc, ils avaient une contrainte, physique. Et donc, bah, on était baisés, on ne pouvait rien faire. Sauf que il y a quelques mois, ils ont réécrit et devant la demande et devant toute l'effervescence du Edge, bah, ils se sont quand même penchés sur le problème. Et il y a quelques mois, ils ont sorti une version Prisma Edge. Et donc, à partir de là, l'intégration dans Nuxt était possible. Et donc, c'est pour ça que ce module Nuxt, en fait, arrive que très, très, très tardivement parce qu'il fallait faire la migration. Et pour le coup, ils ont fait ça plutôt, plutôt bien, plutôt propre. Et donc, on vient en fait récupérer bah, tout l'écosystème Prisma, donc avec la déclaration de schéma, toutes ces choses-là. Et on vient utiliser le fameux use machin, use Prisma, qui est en fait la composable de l'écosystème sur
Prisma client.
Exactement. Et là, en fait, depuis ton composant, tu vas pouvoir en fait faire un use Prisma client et tu vas exécuter ta query
directement dans le browser quoi.
Dans le browser et tu vas récupérer tu vas récupérer. Donc ça c'est plutôt cool. Ça arrive arrive un peu tard mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Ils ont mis du temps quand même. Mais bon, ils ont mis du temps. Mais ils étaient un peu obligés en même temps puisqu'avec tous les nouveaux systèmes Drizzle tout ça qui sont compatibles Edge, eux étaient pas compatibles. Alors après c'est un peu différent mais c'est vrai qu'ils avaient pris un peu de retard sur ce côté Edge.
Bien sûr. Et tu vois, on est obligé de parler de Drizzle parce que je pense que Drizzle leur a mis un coup de pression de maboule. Vraiment. Donc, ils étaient obligés de combler ce vide-là. Mais aussi, ils viennent utiliser toute la partie serveur, des serveurs component, avec tous les avantages que ça amène. Et donc, Prisma tient vraiment, tire tout le bénéfice, en fait, de cette technologie-là. Et ça reste quand même récent. Il y a pas une grande maturité là-dessus encore. Ça reste encore hyper. Alors, c'est utilisable en prod, tout, ça marche, aucun problème là-dessus. Sauf que ça reste encore récent, donc il fallait que tout l'écosystème s'étoffe et vienne développer sur cette technologie-là. C'est ce que Prisma a fait parce que il y avait l'alignement des planètes. Ça a été long, mais ils ont réussi. Donc c'est cool.
Yes. Ok. Cool.
Propre.
On reste sur Nuxt.
Allez, on reste encore sur Nuxt. On parlait de
petite musique d'enterrement.
Exactement. Nuxt 3 est sorti il y a déjà pas mal de temps. Ils maintenaient encore Nuxt 2. Et là, en fait, ils annoncent comme quoi, c'est la fin, end of life. EOL, c'est la fin de vie de Nuxt 2. Alors vous pouvez encore pousser votre applicatif va encore tourner. Hein.
C'est pas fini.
Ça va pas s'arrêter. Par contre, eux, ils vont arrêter en fait de faire.
Ils arrêtent les frais.
Voilà. ce qui est normal. Ils ont mis beaucoup de temps à passer sur Nuxt 3. Ils ont tout réécrit. Ils ont fait un effort. Ils ont aussi fait des systèmes pour faire une migration. Il y a un module qui s'appelle Nuxt Bridge qui, en fait, est la première étape pour migrer vers Nuxt 3. Donc, voilà, ils ont accompagné cette transition-là. À un moment donné, c'est la fin, quoi.
Ouais. Bah après, Vue 2, c'est ce qui marque là, c'est que Vue 2 était en end of life le 31 décembre 2023, donc ça fait 6 mois déjà. Donc logiquement, Nuxt 2, qui est basé sur Vue 2, doit tirer sa révérence.
Suite logique.
Donc voilà, fin du mois, là, 30 juin 2024, c'est la fin de. Voilà, ils s'en occupent plus du tout. Alors évidemment, comme tu dis, ça tournera toujours. Tiens, petite question. T'as des projets en Nuxt 2 ?
Oui.
qui tournent ?
Oui.
pareil, oui. Moi j'en ai un aussi qui tourne.
et je sais aussi que le client, pour le coup la cliente, ne sera pas prêt à payer la transition et la migration sur un Nuxt 3. Quoi.
Ouais, moi c'est pareil.
Donc,
c'est pareil. Bon, ça tourne, hein, après ça marche bien.
Ouais.
Mais ça fait chier. Une mise à jour de sécurité ou quelque chose comme ça.
Mais ça fait chier. Mais c'est comme ça.
Ouais.
C'est le jeu. C'est le jeu.
Voilà. Bye bye, Next 2. Tu nous as bien rendu service.
Exactement. Allez, on passe sur des trucs un peu plus funky et exactement totalement insolites. Il y a, on en a déjà parlé, mais ça prend de plus en plus d'effervescence. On va dire c'est le retour en force de SQLite, qui est la base de données vraiment toute légère.
J'ai un truc, tu vois. Attends, j'ai un truc.
De quoi ?
Tu sais que... Alors, il y a un mec qui avait fait une... Juste deux secondes, je fais une aparté sur SQLite. Il y a un mec qui avait fait une conférence sur DevOx et il expliquait que ça se disait SQLite, en fait. Ça se prononce comme ça, apparemment.
Okay.
Alors, le mec n'arrêtait pas toute la conférence. Il disait SQLite, SQLite. Et je me disais, putain, mais c'est pas possible. Et à la fin, il dit, mais non, en fait, ça se dit vraiment SQLite parce qu'apparemment... c'est basé, c'est pas light en fait, le mot, c'est plutôt basé comme un petit SQL en fait, donc c'est plus lié à la, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait a priori ça se dit vraiment SQLite.
Donc, ok.
Alors moi je continuerai à dire SQLite parce que j'aime pas trop SQLite, mais.
Mais ok, bah tu vois là tu m'apprends et toutes mes excuses pour avoir dit pendant des années SQLite, alors c'est SQLite. toujours est-il que il y a un retour en force qui est vraiment assez prononcé, je pense aussi par des personnes et surtout une société qui s'appelle Turso qui a investi énormément parce qu'il déplace en fait ce SQLite dans le Edge et donc ça ouvre des possibilités à des prix défiant toute concurrence. Voilà, il y a une technologie de ma boule quoi.
C'est général, hein, c'est général parce que je le vois dans Laravel par défaut. Maintenant, c'est SQLite qui est installé quand tu installes un nouveau projet. WordPress, tu as la possibilité aussi maintenant de te connecter à SQLite, de passer de MySQL. Donc, tu vois, c'est général. C'est pas que le monde JS ou quoi. C'est vraiment SQLite est en train de faire un retour fracassant. On se rend compte qu'il est suffisant pour beaucoup de projets.
Ouais, carrément.
Beaucoup plus simple, donc
c'est cool. Et pour le coup, là, tu as trouvé un tweet où en fait, le mec, en quelques lignes, il utilise SQLite avec, une extension qui s'appelle SQLite HTTP. Donc, c'est pour envoyer des requêtes HTTP directement depuis ta base. Et là, en fait, il fait un scrap, c'est ça, en 5 lignes de code.
Ouais, il fait du scrapping avec SQLite. Il va chercher directement les liens dans une page et il les met directement dans la base de données. En fait, tout ça en quelques lignes de code avec bun. Et donc, tu fais OK. Bah, des fois, on cherche toujours compliqué en fait. Et parfois, c'est tout simple. Donc voilà, celui-là, il est pas mal.
Très, très bon.
Ouais, très
merci,
bon.
La fonction HTML attribute get.
Ouais, et c'est quoi ? C'est HTTP get body. Avec l'URL et tout, c'est marrant. Comme quoi,
Pour le coup, c'est hallucinant. En 2-2, il a tout récupéré quoi. Donc propre.
Celui-là, c'est propre, ouais.
Et pareil en PHP, lui, il a réussi à faire quoi ?
Bah lui en PHP avec quelques lignes de code aussi, pareil, il te fait une API, enfin en tout cas une réponse API en JSON, t'as quasiment rien dans le code, il va chercher, il fait sa requête SQLite et il donne une réponse en JSON et c'est terminé quoi. Il met ça sur un serveur Apache et voilà, t'as ta réponse JSON en deux temps, en trois mouvements. Donc pareil, toujours super simple, super, voilà. C'est vrai qu'on a tendance à se compliquer la vie, tout ça, à mettre 18 000 dépendances et en fait là tu vois qu'en quoi, 17, 18 lignes, le mec, et encore moins que ça parce que là je prends juste les espaces, et en rien de temps, voilà, tu fais une réponse API qui peut bien suffire pour pas mal de projets web app.
Simple. Comment simplifier, mais après ça c'est un peu la maladie du développeur quoi, tu vois, de faire de la conceptologie et de faire des trucs compliqués, d'utiliser des techno hype, alors que simplifier
c'est un peu notre problème, ouais. On a tendance à vouloir toujours utiliser des super trucs, faire voir qu'on sait le faire, prouver tout ça et en fait
prouver qu'on est malin quoi, qu'on est intelligent,
prouver qu'on est meilleur que les autres et puis finalement le but c'est surtout faut que ça marche, c'est tout, ouais, c'est tout ce qu'on a besoin en fait.
Yes, voilà. Carrément top. Écoute Patrick, on en reste là pour cet épisode.
Ouais,
Et on vous remercie énormément pour votre soutien avec le petit pouce que vous allez lâcher, le petit commentaire que vous allez donner. Partagez évidemment l'épisode à vos collègues. Et on remercie toutes les personnes qui nous soutiennent sur le GitHub Sponsor. Un grand merci à vous. Et on vous dit à bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, ciao.
Ciao, à plus.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.